Le Conseil Général soutient les festivals de l'été et la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez toute la programmation, les détails pratiques, des reportages et des jeux sur culture.lozère.fr. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les estivales de l'été sur 48 FM.
Les estivales de 48 FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes pour ce nouveau numéro des estivales à l'auberge du Moulin à Auxillac. Dans le cadre des Célestivales, on va vous parler de ces deux jours de festivités, de festivals qui ont lieu à Auxillac, donc sur la commune de La Canourgue, autour de Céleste Albaret. Et donc on va en apprendre un petit peu plus, tout d'abord avec la compagnie La Faute à Voltaire et notamment Bernard et Mireille Grandjean, ainsi que un certain nombre de comédiens qui pourront venir intervenir pendant cette première partie. Et puis après, on continuera à approfondir les choses avec des retours des éditions précédentes et aussi découvrir ce personnage de Céleste Albaret.
Mais qui était Céleste Albaret ?
Voilà, ça sera la troisième partie, Nicolas. Voilà, donc vous l'avez entendu, Nicolas Trottoin est avec moi aujourd'hui. Et donc, bonjour à nos invités tout d'abord, et peut-être vous présenter, même si on ne vous présente plus, Bernard Grandjean.
Bernard Grandjean n'est pas présentable. si, il est présentable, je vous promets, il est bien habillé.
Non, bien, avec Mireille, nous sommes les fondateurs du Théâtre de la Mauvaise Tête, dans lequel nous avons animé la création pendant une trentaine d'années. Et puis, depuis 2005, nous avons décidé de travailler avec de jeunes comédiens plutôt, et nous avons créé la compagnie La Fosse à Voltaire.
De jeunes comédiens qui viennent d'où ?
De jeunes comédiens, il y en a deux qui sont lozériens, il y en a qui sont de Lyon, d'Ardèche, de la région Rhône-Alpes.
Voilà. D'accord.
Et donc la compagnie travaille sur plusieurs plans. D'abord, jeune public, donc on a un certain nombre de spectacles jeune public en Lozère ou en tournée. Nous travaillons aussi des spectacles pour les lycées, mais c'est vraiment un travail organisé en accord avec les lycées, autour d'un programme et d'un échange véritable avec les professeurs.
Sur un projet pédagogique
avec,
qui est monté
par les pédagogiques, une rencontre, etc. Et sur des textes de la littérature française que l'on adapte ou que l'on présente sous un angle différent. Mais ces spectacles-là sont conçus aussi pour être tout public. Et nous avons présenté au Célestival déjà le travail sur Candide et un travail autour de la cantatrice chauve de UNESCO. Et cette année, ça sera autour du Donjon. Donc ce sont les deux axes principaux de notre travail, ce tout public, le lycée et le jeune public.
D'accord, plutôt un travail autour d'œuvres classiques plutôt que d'auteurs contemporains.
Voilà, texte classique, enfin classique ou contemporain, si on considère que UNESCO est contemporain, Et pas de. Pour le moment, nous n'avons pas de demande des lycées de théâtre. Actuel, des écrivains qu'on dit vivants, comme si les autres étaient morts. Enfin bon. Donc voilà, donc ça c'est la compagnie. Et donc notre siège social étant à Auxillac, nous avons envie, il y a 3 ans, de faire un cadeau à Auxillac en disant on organise un festival pour une seule fois. Hein. Il y aura un concert et tout ça autour de Céleste. Il y avait une lecture de son livre et de croiser avec des textes de Proust. Donc nous avions décidé de faire ce cadeau à Auxillac, en quelque sorte, pour montrer notre attachement au village par ce festival. Musique, théâtre, etc. Bon, il y a eu un succès suffisant pour qu'on nous pousse à en faire un deuxième, un second, qui est devenu un deuxième. Et là, nous en sommes sur le troisième. Donc, toujours dans la même pensée, avec une accroche principale autour de Céleste. Il y a un événement principal autour de Céleste, et puis autour théâtre, musique.
D'où le nom
Célestival.
Voilà, Célestival. Et Célestival. D'accord.
Alors, juste en deux mots, on reviendra sur le personnage de Céleste Albaret tout à l'heure, mais pourquoi Céleste Albaret et Auxillac, voilà.
C'est parce que Céleste, donc, gouvernante de Proust, qui l'a accompagnée tout au long de sa vie, tout au long de son écriture, est originaire d'Auxillac, du moulin, de la maison dans laquelle nous sommes en train d'enregistrer. Là, elle est née ici, elle a passé son enfance, sa jeunesse ici.
À quelle époque ?
Elle est née en 81, 11 1791, et elle est partie à Paris en 1914.
Voilà. On aura tout le détail tout à l'heure. On a dans la salle des réactions, on sent qu'il y a des gens qui sont au top.
Il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'ont connu après la période Proust, après le décès de Proust. Mais voilà. Donc nous savions qu'elle était originale ici. Nous savions un certain nombre de choses. Nous avons rencontré des gens qui la connaissaient bien mieux que nous, et on a pensé que c'était intéressant de faire un festival pluriartistique autour de quelqu'un qui a été aussi près des arts, ouais, qui était au cœur de l'art, même si elle n'a pas été, même si c'est pas elle qui a écrit, elle était vraiment au cœur de l'œuvre de Proust par
dans
son
le cœur et
par sa
au cœur de Proust,
par tout ce qu'elle a pu faire au cœur.
Alors peut-être pouvez-vous nous présenter ce qui sera cette troisième édition des Célestivals.
Eh bien, il y a un schéma que nous avons retenu chaque fois, mais avec des animations différentes. Les festivals commencent toujours par des ateliers. Là, un après-midi d'atelier aujourd'hui, à partir de 14h. Donc, il y a trois ateliers, un atelier théâtre, un atelier écriture, les deux animateurs sont là, et puis un atelier photo et graphisme. Donc, l'atelier théâtre, ce sont deux comédiens de La Faute à Voltaire, Gwenaël et Camille, qui l'ont en charge.
C'est ouvert pour tous
Tous, oui, à partir de 7 ans, on va dire, pour simplifier. Et c'est ouvert à tous, tous les âges. L'atelier, et donc, qui va se dérouler sur l'après-midi et qui se termine à 18h30 par une présentation du travail de l'après-midi. C'est sur une longue travail de toute la journée et avec un résultat. Et travail d'écriture, c'est le même principe. Hein, c'est Geneviève qui est là, qui fera la. Si tu veux dire deux mots sur le. Sinon, donc l'atelier d'écriture qui est ouvert aussi à tous. Et elle pourra répartir suivant les âges. Si tu veux dire un mot rapide.
Un mot rapide.
Voilà, une intervention directe. Donc c'est Hélène. Hélène,
comment Geneviève. Voilà, Geneviève.
Ah, pardon, Geneviève, je dis Hélène.
Sicard. Donc j'anime l'atelier d'écriture qui va être ouvert à tous, c'est-à-dire, j'en ai discuté avec monsieur et madame Grangin, on peut démarrer à 5 ans. Et voilà, et jusqu'à
point d'âge.
Voilà. Et moi, je fais en sorte que l'atelier parte des textes de Proust. Donc, on partira d'une lecture de Proust et voilà.
Même pour des enfants de 5 ans ?
Même pour des enfants de 5 ans, bien sûr, encore mieux, pour des enfants de 5 ans. Et voilà, et ensuite, eh bien, on invente. On invente et on essaie de se régaler à écrire.
Très bien.
Voilà.
Merci. Et pour le théâtre, en deux mots, si Laurien.
Oui, sur les ateliers de théâtre. Pour l'atelier théâtre... On a voulu continuer, donc ça fait 3 ans que moi je l'anime. La première année c'était avec un des comédiens qui n'est pas là cette année, de La Faute à Voltaire. L'an passé on avait fait un travail sans texte justement, parce qu'avec la comédienne avec qui je travaille, quand on travaille avec des enfants justement autour du théâtre, on aime bien justement travailler sans le texte. Et là cette année on a voulu justement faire autre chose, donc là cette année on travaille un petit peu sur le texte. Donc on essaye d'amener le théâtre de manière très ludique, que les enfants puissent s'amuser, mais en même temps comprendre que c'est du travail aussi. Et donc voilà, il y a toute une... On commence par un échauffement, par une découverte corporelle. Ensuite, justement, il y a plusieurs, on va dire, improvisations.
Autour, à partir des textes de Proust, toujours, non ?
Ah non, nous, on se détache de ça. et à la fin, justement, les textes qu'on va essayer de leur faire jouer, c'est justement des textes qui ont été écrits par un auteur qui est toujours en vie, qui écrit uniquement justement du théâtre pour enfants, donc avec un langage qui est assez simple, parce qu'on aimerait justement donc leur faire travailler la lecture. Et à la fin, justement, pour la présentation, on aimerait justement, on verra tout à l'heure, qu'ils arrivent à se détacher du texte et à justement refaire des situations, donc plus utiliser une trame, et que dans ces situations-là, ils peuvent utiliser les mots qu'ils veulent et leur faire comprendre qu'on n'est pas obligé de tout le temps de respecter un texte, mais qu'on peut aller aussi à l'essentiel avec ce qu'on a envie d'apporter. Voilà. Donc ça, c'est de 14h à 17h30.
D'accord, très bien. Avec
18h30, à 18h30, la présentation.
Voilà, exactement.
D'accord. Et pour le restitution un petit peu de leur travail.
Voilà, exactement.
Et pour l'atelier graphisme, donc c'est Rodolphe Gire qui va l'animer, qui est sous l'orage en moto actuellement, mais si tout va bien, il sera là. Et donc, c'est sur le thème de l'autoportrait. parce que justement par rapport peut-être à Proust, il a pris cette idée-là, et qui sera travaillé aussi bien en graphisme qu'en photo. Et le rendu sera donc une petite exposition, plus peut-être
noir,
une vidéo.
Une photo noir et blanc, c'est ça ?
Photo, oui. Je pense, oui. Enfin,
Parce que Rodolphe a beaucoup travaillé sur
le noir et blanc.
Et blanc
et puis donc, il va faire travailler aussi le graphisme et mettre les deux en parallèle. Voilà. Voilà pour les ateliers.
Alors après, on continue la journée aujourd'hui.
Alors, donc à 18h30, c'est encore une fois le rendu de cet atelier, qui est vers 19h15, apéritif offert par la municipalité, apéritif d'ouverture. Et la première manifestation, donc, en tant que spectacle, c'est à 21h, à l'église, puisque le temps n'est pas avec nous, d'un concert donc, de trio Barolo. Donc trio composé de trombone, contrebasse et accordéon chant. Jusqu'à présent, nous avions eu Joël Forrester, qui est le parrain du festival. Joël Forrester, en deux mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, était l'élève unique de Thelonious Monk, compositeur, pianiste. Cette année, il est retenu à New York, mais dans ce trio-là, il y a le contrebassiste qui jouait avec lui dans son French Quintet de l'année dernière au Célestival. Donc c'est assez original, c'est pour ça que nous avions retenu ce groupe-là. Très, très, très émouvant, très, très prenant. C'est pas le jazz sur le niveau swing avant tout, c'est pas le swing et le rythme avant tout, c'est une émotion, c'est une ambiance à laquelle concourent tous les éléments, y compris la voix justement.
Voilà, on entendra deux extraits au cours de, enfin deux morceaux au cours de cette émission. Ça nous permettra de nous mettre un peu dans l'ambiance. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est à 21h à l'église d'Auxillac.
Hein. Puisqu'on parle de l'église, tout est prévu à l'abri si jamais il pleut encore demain. Donc rien ne sera annulé ce qu'on annonce.
Vous avez des solutions de repli.
Des solutions de repli.
Et alors on va juste préciser que le seul événement payant, c'est ce soir.
C'est ce soir, voilà.
Donc avec l'entrée 12€, tarif réduit 8€ voilà. Pour le concert.
D'accord.
Alors après, on passe à demain, jeudi 8. Alors, quelles sont les propositions pour jeudi ?
Eh ben, le matin à 11h, à la salle des fêtes, donc un spectacle jeune public. Enfin, jeune public, je préfère dire en famille à partir de 5 ans, parce que c'est aussi bien pour les enfants que leurs parents. Il y a différents niveaux de lecture et ça fonctionne bien quand les parents sont avec leurs enfants et les enfants avec leurs parents. Donc ça s'intitule « Les ineffables de La Fontaine », iné avec N O Z, c'est-à-dire qu'on a mis un nez rouge aux fables de La Fontaine, en quelque sorte. C'est une réécriture des fables de La Fontaine, décalée, avec humour, mais en même temps avec quelques intentions aussi de peut-être remettre en question les idées un peu reçues, les choses de ce genre-là. Voilà.
Bien.
C'est présenté par la compagnie.
Par la compagnie, bien sûr. Oui. Donc tous les spectacles sont ceux de la compagnie. Hein. La compagnie D'accord. s'investit totalement là-dedans. À part le concert, ils n'ont pas encore les moyens d'en faire.
Donc ça, c'est un spectacle qui a été créé il y a
déjà 4-5 ans. Là, c'est même un des rôles qui est en reprise. Là. Donc c'est un spectacle qui a 4 ou 5 ans. Oui.
D'accord, et qui tourne un petit peu partout.
Qui tourne régulièrement. C'est-à-dire que pour tous nos spectacles, nous avons donc 3 ou 4 spectacles au public, 5 spectacles jeunes publics. Et on n'a pas chaque année tous les spectacles tournent, voilà.
D'accord.
Donc on n'a pas une grosse tournée sur un spectacle, mais tous les spectacles ou presque tous les spectacles tournent chaque année. Et voilà, les dernières créations étaient l'année dernière au Célestival. La dernière création jeune public, c'était Rue des Rêves que nous avons créé au Célestival et qui commence à tourner, qui est allé au festival de l'enfant à Fès au Maroc. Qui, voilà.
Bien, alors cette journée se continue, j'imagine.
Eh ben oui, j'espère. J'espère sous le soleil. Et à oui. 14h45, donc un itinéraire qui est prévu dans le village. Alors, je rassure tout le monde, venez quand même. Hein. S'il pleut trop, eh bien, on se retrouvera à la salle des fêtes. Parce que cet itinéraire doit emmener le public de spectacle en spectacle, de spectacle court en spectacle court. Il y a un spectacle burlesque, il y a de la musique, de trio.
Donc là, qui sont joués un petit peu partout dans.
Voilà, c'est ça. Le principe même, si le temps le permet, on part de l'auberge où il y a un trio Dents de Lune qui introduit sa musique. Ensuite, on se déplace avec un accompagnement burlesque jusque vers la place de l'église. Ensuite, on monte au Catelmas où il y a un spectacle d'un Fabio de Moyen Âge, où il y a un spectacle cirque et musique par les jeunes de la faute, disons les ados de la faute à Voltaire. Et ensuite, on redescend à l'église pour un texte de Dario Fo.
D'accord. Voilà. Et tout ça à travers une thématique qui...
Il n'y a pas de thématique. Non, il n'y a pas de thématique. C'est le plaisir de promener, de faire montrer le voyage, le village à ceux qui ne le connaissent pas. Et on passe de... Alors c'est vrai que c'est quand même relié au côté plus ancien du village.
D'accord, même la partie patrimoniale du village.
Voilà, voilà, c'est ça, le côté patrimonial. Même si Dario Fo est assez décapant, c'est pas... Bon.
Alors peut-être Pierre, en tant qu'habitant, une petite réaction ?
Oui, juste une petite réaction. Pour dire que Bernard a parlé d'une prestation de la compagnie, excusez ma voix, à Fès, il a oublié de vous dire, ou plutôt c'est sa modestie, qui lui a interdit de dire que Pascaline Grandjean, à Fès, a eu le prix de la meilleure comédienne. Donc je crois que ça méritait d'être dit.
Effectivement.
C'est du direct, donc on entend les applaudissements.
Pascaline qui est autour de la table.
Peut-être un petit mot, Pascaline.
Elle reviendra, elle nous parlera d'une des prochaines propositions. Donc ça c'était 14h45.
Voilà donc, et alors, encore une fois, si le temps ne le permet pas, nous nous retrouverons à la salle des fêtes et on présentera donc de façon continue les quatre spectacles, enfin pas le spectacle de cirque malheureusement, mais les autres spectacles qui étaient prévus. Il y aura quand même quelque chose. Ensuite, donc, c'est l'accroche autour de Céleste, c'est la raison d'être du festival. Donc 16h45 à l'église, ça c'était de toute façon prévu à l'église. Présentation du film, donc La Part Céleste, qui a été réalisé par Thibaut Gobry, qui vous en parlera, je pense, tout à l'heure en parlant de Céleste. Voilà. Donc c'est un court-métrage dans lequel qui nous rapporte les derniers jours de Proust, mais vu par l'extérieur, par les yeux de Céleste, vu de l'extérieur, on ne voit jamais Proust dans le film, mais on voit Céleste s'activer, essayer de continuer à coller ses paperoles comme si elle pouvait se prolonger la vie de Proust, s'occuper de tout, faire le café comme elle seule savait le faire, enfin, etc.
Et ça, c'est un film qui a été tourné ici ?
Et c'est un film qui a été tourné à Troyes. Voilà, qui a été tourné à Troyes, et le réalisateur donc est passionné par Céleste et Proust. Et j'ai eu connaissance de son travail, et donc il est venu très gentiment présenter son film.
C'est bien, donc là.
Et qui sera l'événement donc, du festival pour ce qui est
de ça. À 16h45 à l'église. Donc à l'église, est-ce une entrée payante ?
Non, tout est
l'ensemble est gratuit.
L'ensemble est gratuit.
D'accord.
Non pas que nous ayons beaucoup de subventions, mais parce que nous avons beaucoup de générosité.
C'est inversement proportionnel, en général, c'est ça ?
Donc je rappelle, le concert est le seul événement payant. Et suite au film, il y aura discussion, bien sûr, échange avec Thibault, avec le réalisateur.
Bien.
Et on peut préciser au passage qu'on a été aidé quand même par la Ligue de l'Enseignement pour organiser le film.
La Ligue de l'Enseignement qui assure aussi le soutien technique de 48FM sur les émissions de l'été, il faut toujours le rappeler. Ça y est à peu près dans le générique de toutes les émissions, mais il faut quand même le dire, et notamment pour nos directs ou nos émissions enregistrées à l'extérieur qui effectivement nécessitent quelques moyens supplémentaires.
Voilà, mais c'est aussi le rôle de la Ligue de l'Enseignement de faire ça, donc c'est bien qu'elle y soit.
Bon.
Alors, la journée se termine à 21h. Enfin, non, pas à 21h. La fin de la journée commence à 21h.
Voilà. Donc, à 21h, nous présentons donc Don Juan, mais non pas Don Juan. Enfin, pas la pièce de Molière intégrale, mais Don Juan, la répétition. Donc, ce sont des comédiens, quatre comédiens, qui sont en train de répéter la pièce de Don Juan, ce qui permet de donner une perspective aux principales scènes de la pièce et de voir monter progressivement un spectacle, voir comment un spectacle se monte. Comment il se répète, comment il se monte, et en insistant sur les scènes essentielles de la pièce. Alors peut-être que Pascaline, vas-tu en dire deux mots aussi, Gwenaël, c'est Don Juan.
On a notre Don Juan ici.
Alors on t'écoute Don Juan.
Comme disait justement Bernard, c'est vrai que il ne faut pas s'attendre au spectacle Don Juan dans son intégralité. Et que vraiment c'est axé sur certaines scènes, les scènes on va dire principales au niveau de l'intrigue. Et mais ce qui est vraiment intéressant dans ce spectacle, là où Bernard justement a mis l'accent, c'est sur ce travail autour du texte, comment se passe une répétition au théâtre, voir des comédiens travailler autour d'un texte justement. Et ça c'est intéressant pour le spectateur justement qui n'a pas l'habitude de voir cette chose-là. Même on parle beaucoup dans le spectacle, on donne beaucoup de termes techniques, des termes techniques donc théâtrales, que ce soit côté cour, côté jardin, qu'on parle des projecteurs. Et ça aussi c'est très intéressant pour le spectateur. puisque ça lui permet justement de découvrir un peu l'envers du décor.
Ouais. Voilà. Et en même temps, la pièce de Molière est très très présente. Hein, c'est-à-dire que vraiment le cœur du texte de Molière est là, mais avec des mises en perspective. C'est-à-dire qu'avant, il y a un échange pour savoir comment on le fait. Par exemple, une des scènes fortes, la scène du pauvre, comme improvisée, etc. Donc il y a différentes façons, tout un tas de façons différentes, mais Molière est très très présent.
Ah oui.
Seule chose, c'est qu'il n'est pas, il n'y a pas la totalité du texte.
Donc ça, c'est un choix de...
du type de travail que nous faisons en général. D'accord. L'année dernière, pour les festivals, nous avons joué autour de la cantatrice chauve, un travail que j'avais fait, soumis à Madame Ionesco d'ailleurs, qui mettait en scène la façon dont la pièce avait été créée aussi, mais pas répétée, mais créée. Enfin bon, c'est une façon de mettre en perspective les œuvres que nous présentons.
Je voulais dire aussi que, en fait, pour nous les comédiens, ce travail-là que nous avons sur, que ce soit pour la cantatrice chauve ou le Don Juan, c'est qu'il est, il est vraiment intéressant parce que nous sommes quatre. Nous devons, voilà, il y a énormément de personnages dans le Don Juan. Et ce qui est agréable aussi en tant que comédien, c'est de passer d'un personnage à un autre, qui sont vraiment totalement différents.
Donc en fait, chacun. Chacun interprète plusieurs personnages.
Voilà, sauf Don Juan.
D'accord,
Don Juan reste Don Juan. D'accord. Mais les trois autres autour, oui.
Est-ce qu'on voit le travail du metteur en scène, donc ?
Oui, tout à fait. Marie, elle a le rôle justement de la metteuse en scène. Et elle aussi le rôle de Charlotte. Et aussi.
Donc c'est des allers-retours de jeu.
Oui, là, c'est des allers-retours
de... des corrections de jeu, c'est ça ?
Oui.
Donc on assiste un petit peu donc à la répétition, puisque ça s'appelle comme ça.
Et à la direction d'acteur,
oui. Et à la direction d'acteur.
D'accord. Tout à fait.
Et ça, alors, on insiste beaucoup dans ça dans la première partie, c'est-à-dire que la première partie, on part vraiment de rien, et après, on fait vraiment un filage tel qu'on le ferait en représentation. Et puis ensuite, pour les autres actes suivants, on va un petit peu plus vite, on déroule un peu plus vite l'action, mais dans la première partie, dans le premier acte, disons, on part vraiment du texte mal dit, on va dire, pour simplifier, à ce que ça donnera en représentation, avec l'éclairage de représentation. Avec,
d'accord. Voilà. Et en scénographie, le choix qui a été fait, c'est quoi ? C'est en fait qu'il y ait aussi les costumes, qu'il y ait des décors ou pas du tout ?
En scénographie, c'est qu'il y a plateau nu, mais des costumes, oui, qui vont apparaître progressivement ou qui sont déjà, mais il va y avoir aussi les costumes qui jouent leur rôle, qui sont intégrés. Par exemple, Don Juan, il ne veut jouer qu'en costume. Il sait jouer qu'en costume et ça l'inspire, donc il sera en costume dès le début. D'autres se mettront en costume au fur et à mesure, changeront de costume, etc.
C'est comment, en fait, le costume habille le personnage et voilà. Comment le personnage s'en sert pour devenir quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est pour devenir...
Donc ça, c'est expliqué un petit peu
rien n'est expliqué scolairement. Hein, mais
c'est pas pédagogique.
Non, c'est pas expliqué.
Mais c'est joué, c'est joué. D'accord, il y a un système de décollage.
Et donc j'ai perdu
il y a un rythme dans le spectacle qui est très bien, justement, qui a très bien été géré, puisque justement, on passe... Enfin, il y a des scènes donc, intégrales qui sont quand même jouées intégralement avec, on va dire, avec le mojo, enfin, la foi théâtrale qu'on peut mettre en tant qu'acteur. Et justement, ces scènes-là, avec les scènes justement où on est en plus en acteur qu'en personnage, ça crée une rythmique où le spectacle...
Oui. Entre l'acteur en tant qu'acteur, puis l'acteur devenu personnage, etc. Voilà. Et la scénographie, je voulais terminer, il y a aussi un élément de base, c'est que nous jouons avec des périactes, quatre périactes, c'est des colonnes à trois côtés, qui soutiennent l'imagination du spectateur suivant l'opposition, etc. C'est une forêt, c'est l'entrée de la donjon, etc. Donc il y a aussi un travail scénographique, mais on a visé à ce que ça soit
assez
le plus simple possible,
ouais,
que ça soit joué vraiment jouable partout, quoi. Même si on le joue à l'église parce qu'il pleut, et il nous manque, on aura une surface réduite de moitié, mais bon, ça sera possible, et il y aura toujours ces éléments-là.
D'accord.
Bien, ça fait très envie.
Ça donne envie. Et ça dure combien de temps ?
Ça dure 1h10. On peut déjà dire que de toute façon, nous l'avons déjà joué à Mende pour le lycée Chaptal au début de l'année. Et on avait eu un très bon accueil.
D'accord.
Et
bon,
c'est une forme semblable qui s'est représentée ce soir.
Voilà, puis donc il avait été créé au Choc Théâtre à Saint-Étienne. Et il avait été très bien accueilli aussi.
D'accord. Donc là, quatre comédiens qui sont Pascaline Grandjean,
Gwenaël Mélé. Adrien Pérez et Marie Bigre.
Et Pascaline Grandjean, oui.
La fameuse comédienne qui a reçu le prix d'interprétation.
Je ne suis pas objectif, désolé.
Bien, mais merci en tous les cas de cette présentation qui, je crois, met l'eau à la bouche. Et on va peut-être faire une petite pause musicale avec justement la proposition de ce soir, ce trio Barolo. Avec un peu de jazz. Et voilà, on se retrouve à Auxillac pour parler des Célestivals, et donc ce festival qui a lieu ce mercredi 7 août et ce jeudi 8 août, donc dans cette belle commune, même s'il pleut aujourd'hui, et qui est bien agréable ici au-dessus de la Canourgue. Alors, de cette deuxième partie de l'émission, on va peut-être assez rapidement avoir un peu le retour de festivaliers des années précédentes, puisque cette troisième édition, elle ne fait que commencer. Là, on est quelques heures avant le début. Alors peut-être, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà...
On a beaucoup de jeunes autour de la table, c'est bien. Hein.
Voilà, et peut-être que certains ont fait justement des ateliers l'année dernière. Alors,
ce monsieur s'appelle comment ?
Lucas Tester.
Voilà. Alors, peut-être peux-tu nous dire comment ça s'est passé ? Quel intérêt tu y as trouvé de cet atelier ? Voilà. Comment tu as vécu ce moment-là ?
Est-ce que tu as envie aussi de le refaire cette année ?
Alors, l'année dernière, nous avons fait l'atelier théâtre, qui était dirigé par Gwenaël. Donc, comme il l'avait expliqué précédemment, il y avait un échauffement. Donc, on faisait divers mouvements. Et on improvisait des scènes sur des thèmes différents. Et c'était ludique, mais en même temps, on voyait que il fallait bien s'échauffer, qu'il fallait bien respecter certaines choses. Et donc, on découvrait aussi des choses sur le théâtre, tout en s'amusant.
Donc, une belle expérience.
Voilà.
Et donc là, tu le refais cette année ?
Non, je pense que je vais aller à l'atelier...
Graphisme.
Oui, parce que vu qu'il est nouveau, j'avais envie de l'essayer. Et donc, voilà.
Très bien.
Voilà, donc, l'autoportrait pour toi cet après-midi.
Voilà.
Alors, peut-être un autre commentaire.
Moi, l'année dernière, j'ai pas fait de...
Donc, ton nom, c'est ?
C'est Clément.
D'accord, Clément.
On est bénévole sur le festival. Et donc, l'année dernière, j'ai pas fait d'atelier. C'était il y a 2 ans. Et c'était pas dirigé par Gwenaël. C'était un autre comédien qui n'est plus là maintenant. Et c'était vraiment bien. On découvre des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir. On apprend des...
Parce que là, vous êtes scolarisé où ?
Là, on vient de Grenoble.
D'accord.
Et donc, on apprend le monde du théâtre. Et c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. On découvre quelque chose qu'on ne connaît pas et qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, voilà.
D'accord. Et après, vous allez voir les spectacles un petit peu ?
La même compagnie ? Nous, on fait un spectacle justement sur l'itinéraire.
D'accord. C'est la partie jonglage, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Donc s'il pleut, on ne pourra pas le faire malheureusement, mais bon, on espère qu'il fera beau.
Et on vous le souhaite en tout cas demain.
Ouais, ouais.
Voilà, pour que ce soit une bonne continuité de votre travail. Voilà.
Alors Marie-Pierre, j'ai participé à l'atelier écriture l'année dernière. C'était la première fois que je participais à un atelier de la sorte. Et c'était assez intéressant parce que c'est vraiment la première fois que j'avais... Et parler de Proust, lire un texte de Proust, ça me faisait un peu peur parce que j'ai jamais réussi à lire un livre de Proust jusqu'au bout. Et Geneviève
Alors pourquoi,
nous a
annoncé. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire un livre de Proust ?
Pourquoi ? Parce que c'est. Pour quelle, enfin, je, déjà, j'ai toujours eu du mal à lire jusqu'à présent. Ça fait seulement 5-6 ans que je me plonge dans la lecture. Proust, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité dans la lecture pour s'y plonger. Et ce qui était vraiment intéressant dans l'atelier l'année dernière, c'est que c'était accessible vraiment à tous les publics. Il y avait des jeunes de 8, 9, 10 ans qui participaient, et puis des adultes. Et donc on participe vraiment de façon simple et pas compliquée. On n'est pas obligé de faire des textes complètement alambiqués, mais on va nous demander d'écrire quelque chose pour retransmettre ses émotions. À la fin du spectacle, à 18h30, il y a la présentation du résultat de tous les ateliers, et je trouve que c'est vraiment sympa qu'un petit village comme Auxillac, où il y a 300 habitants, enfin je ne sais pas précisément, organise quelque chose. On a une chance formidable d'avoir Bernard Grandjean et sa troupe qui nous offre ce festival. Merci.
Alors merci à Bernard.
Alors j'en profite pour ajouter un mot, c'est qu'il n'y a pas que la faute à Voltaire, il y a tous les bénévoles. Alors, je ne citerai pas tout le monde, mais il y a une équipe de communication menée par Pierre Grier, il y a une équipe de jeunes ados qui sont là, très disponibles, et longtemps à l'avance. Hein. Donc sans ces bénévoles-là, il n'y aurait rien du tout.
Bah, comme souvent hein, dans les événements, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est le bénévolat, puis les gens qui s'investissent, voilà, puis les gens qui s'investissent, qui en profitent, puisque vous nous avez dit que vous étiez aussi bénévole dans cette manifestation. Donc c'est très bien.
Peut-être un dernier témoignage, de dire te présenter.
Méluna.
Voilà.
Donc moi aussi, ça fait 2 ans que je fais l'atelier théâtre. Donc j'ai bien aimé, c'est amusant. C'était la première année par Stanislas qui n'est plus là et Gwenaëlle, et l'année dernière Gwenaëlle et Camille. Donc les deux années, on n'a pas fait la même chose, donc c'était bien et c'est sympa de découvrir le monde du théâtre. Comme on ne le connaît pas forcément. Voilà.
Merci pour ce témoignage. Cet après-midi, tu y participes ?
Je pense que je vais faire l'atelier photo, parce que j'aime bien prendre des photos, puis pour découvrir aussi.
Ok.
Un autre univers avec Rodolphe Gir, là, qui intervient à l'IMPRO Le Galion à Marvejols, qui est aussi un artiste peintre, qui a exposé à Mende, qui participe en général à beaucoup de manifestations sur ce département, voilà, qui est très investi dans le monde de l'art et de la culture. Monsieur, peut-être, jeune homme.
Oui, bonjour, je m'appelle Octave. Et je vais vous parler. Donc, il y a 2 ans, j'avais participé à l'atelier écriture. Et puis, au début, on se promenait dans la rue et puis on devait sentir les odeurs et puis y réfléchir. Et puis ensuite, on rentrait et puis on devait travailler sur une des odeurs qui nous avait marquées. Et puis, ouais, c'était une bonne expérience.
Est-ce que ça t'aide après à écrire, en général, dans la vie ?
Oui.
Ouais. Ça t'a permis de t'intéresser plus à l'écriture et à la lecture dans ton cursus scolaire ou pas ?
Oui.
Ou pas du tout ? C'est libre, hein, t'es pas obligé de dire oui. Hein. Est-ce que tes parents sont là, d'ailleurs ? ouais, bah, vas-y, tu peux te lâcher, t'es à la radio, hein, nous, après. Ça fait rien, ta mère, après, elle en tirera les conséquences, quoi, je veux dire.
Non, bah moi avant j'aimais pas tellement la lecture et l'écriture.
T'étais comme maman quoi, ouais. Pas trop, et puis il y a 4-5 ans.
Oui, et puis voilà maintenant. Maintenant ça va.
Bah c'est bien, c'est de découvrir, ouais. Ça sert aussi à ça.
Hein. Et il a fait un stage de journaliste dans un journal. Là.
Ah bon, il y a peut-être des choses qui se dessinent, ouais. C'est ça
ouais. Bon, mais...
peut-être
Guy
Lévesque. Voilà.
On avait déjà fait cette expérience à Chanel, qu'on avait monté un spectacle et une pièce avec des ados. Et je crois qu'effectivement, chaque être humain, en fait, chaque jeune et chaque adulte et chaque garçon et fille a au fond de lui un peu de génie. Mais il suffit de lui donner le moyen de le libérer. Il suffit de lui donner le moyen de libérer ce diamant pur qu'il a au sein de lui, en fait, ses capacités extraordinaires. Et je crois que pour avoir fait, moi, de l'atelier théâtre quand j'étais lycéen, je peux témoigner à quel point ça peut ouvrir des perspectives, ça peut donner confiance à soi, ça peut donner confiance à la vie, ça peut apprendre la rigueur, ça peut apprendre l'exactitude, ça peut apprendre la prise en compte de l'autre, ça peut apprendre toutes ces notions de générosité humaine, toutes ces qualités humaines qui font un homme, qui font l'humanisme, qui font une femme, qui font un homme, qui sont le centre de ça. Donc c'est vrai que ces petits points, la vie c'est des rencontres, c'est des toutes petites rencontres. Et 10 minutes où on a écrit un texte qui nous a fait flasher, ben c'est comme ça qu'on devient un écrivain. Quoi. C'est la petite Madeleine aussi, c'est comme ça qu'on a découvert la soie parce qu'un cocon est tombé dans la tasse d'une princesse. C'est comme ça, c'est des rencontres la vie en fait. Ce sont des choses extraordinaires, c'est des moments. Et dire, ben moi j'ai eu la chance un jour de rencontrer Céleste, je pourrais le dire tout à l'heure peut-être, ben c'est des choses qui vous marquent quand on a eu cette chance-là, qu'on a pu parler avec ces personnes-là, et travailler avec des gens qui ont le talent et la simplicité et la pédagogie, parce que c'est de la pédagogie aussi. Je veux dire, donner la parole à l'autre, savoir s'effacer, savoir le faire s'exprimer, lui donner le moyen de sortir de lui et de créer, mais c'est absolument fabuleux. Donc ça, je crois que c'est notre plus beau combat, et ce combat, il faut le continuer, même si on ne le continue pas au sein des Célestivales. Je crois qu'on est là pour donner la parole à l'autre, pour lui donner le moyen de s'épanouir.
Ce combat, justement, Guy, c'est peut-être le moment d'en parler. Il est développé au sein des établissements publics, hein, avec des ateliers théâtre que mettent en œuvre beaucoup d'enseignants, souvent en français, mais pas forcément, hein, et qui permettent à beaucoup de jeunes, en fait, de s'initier au théâtre, de les débloquer aussi sur la préparation de leur futur diplôme, hein, et puis de leur donner une expérience théâtrale qui les amène après à des conservatoires et qui les amène à à être des acteurs. C'est-à-dire que tout ce qui se fait, que ce soit aujourd'hui, ici au Célestival, que ce soit dans d'autres festivals, que ce soit durant l'année avec des artistes qui interviennent, qui pédagogiquement prennent du temps, qui mettent en œuvre des ateliers théâtrales, et puis ce qu'au fond les enseignants, parce qu'il ne faut pas l'oublier, souvent un peu décrit en disant qu'on perd du temps et qu'on ferait mieux de s'occuper des maths et du français. En tout cas, ça contribue tout ça à l'éveil de l'enfant, à mieux intégrer l'histoire de l'écriture et de la blague qu'on vient de faire juste en disant que est-ce que ça t'aide dans ton cursus. En fait, c'est aussi, je pense que c'est une nécessité que l'art et la culture d'un établissement scolaire est un éveil et que si on ne le fait plus, ou en tout cas si on tire vers que le basique, on ne construit pas la société de demain ni les enfants de demain. Et que c'est important qu'ils aient ces découvertes-là. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui mettent ça en œuvre aujourd'hui, et puis à tous ceux qui pratiquent et qui y vont, hein, vous, en priorité les jeunes.
Non, mais c'est plus que oui, c'est un grand bravo. En plus, les résultats ne se mesurent pas à court terme. Ce ne sont pas des résultats qui sont forcément tangibles. C'est quelque chose qui se passe, c'est une évolution qui se passe dans la tête de quelqu'un et qui peut être absolument fabuleuse.
Et quand on est en vacances, en famille ou avec des enfants, sans enfants, il fait beau, on va à la piscine, on va faire des randos, etc. Quand il fait moyennement beau, c'est justement l'occasion d'aller faire un petit tour dans des petits festivals de campagne où justement on a un accès à la culture qui est absolument unique.
Alors c'est vrai qu'en France, il y a énormément de festivals. Hein. C'est,
pardon, moi ce que je voulais dire juste, c'est que ce qui m'a le plus époustouflé en tant que grand-parent, c'est de voir comment des jeunes, comment Geneviève Sicard, qui doit être une sorcière quelque part, elle est là, faisait sortir, on peut l'applaudir Geneviève, comment elle arrive à faire sortir de la tête des enfants autant de choses. Et donc les grands-parents, finalement, apprennent des choses sur leurs petits-enfants. C'est formidable, ça. Moi, c'est ce qui m'a le plus époustouflé.
D'accord.
C'est Geneviève Sicard qui a révélé notre fille à nos yeux. Nous ne savions pas qu'elle écrivait aussi.
Alors on a d'autres commentaires en off qu'on entend très très peu, mais bon, on va peut-être faire une.
On va faire une. On a une réaction juste derrière toi, Nicolas. Si tu peux.
Au micro, pas forcément au micro. Je voulais dire que je reconnais Nicolas Trottouin, même de dos, que j'ai eu comme élève. Bonjour Nicolas.
Présente-toi.
Non, moi j'aurais pu dire des tas de choses, mais simplement il y a une chose qui me paraît très importante et intéressante, c'est que j'ai entendu dire que les Célestivals, c'était la dernière. Et j'aimerais en savoir plus sur la question.
Alors, moi, je... Pardon, c'est Bernard.
En deux mots, c'est la dernière sous cette forme-là, c'est-à-dire entièrement assumée par une compagnie, généreusement, etc. Si il y a suffisamment de personnes intéressées, il faudra qu'il y en ait qui nous rejoignent sur le plan administratif d'abord, et ensuite des soutiens financiers qui soient significatifs, sinon il n'est pas possible de faire œuvre de générosité éternellement.
Voilà, c'était
le message
une petite réponse, un petit message... C'est sûr que de créer des événements, ça demande beaucoup, ça repose sur souvent quelques personnes. Que là, je pense que c'est aussi un appel à l'aide, puis c'est aussi peut-être de dire qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de s'investir pour que.
Mais moi, par rapport à ça, moi, je suis plein d'espoir parce que nous avons ici un jeune comité des fêtes qui organise la fête traditionnelle, d'ailleurs, qui va suivre, qui se passe samedi 10 août, et que j'espère bien voir participer l'année prochaine à l'organisation générale de la semaine de fête d'Auxillac avec les Célestivals en semaine et la fête traditionnelle en fin de semaine. Tout ça peut parfaitement faire un tout pour Auxillac. Mais il est évident que ce n'est pas ce qui se fait dans les Célestivals, ce n'est pas dans la culture traditionnelle. Moi-même, je n'ai pas été élevé dans cette culture-là. Donc il faut que ça se fasse par petites touches, par approches successives. Par exemple, lors des premières Célestivals, les gens d'Auxillac qui regardaient ça, ils se disaient, c'est quoi ce truc-là ?
Il y a combien d'habitants sur
300 habitants, Auxillac. D'accord. Mais la deuxième année, ils sont tous venus. Et la troisième année, ils vont inviter les copains. Donc la mayonnaise prend. Et là, je suis plein d'espoir par rapport à justement une mobilisation autour de cette maison de Céleste, hein, de cette maison de Céleste, avec la rénovation de la roue du Moulin qui est programmée prochainement, et l'Estival et toute cette animation autour de ce village qui est à la fois tourné vers la modernité et tourné vers la culture avec la gouvernante de Proust.
Bien, on va, si vous voulez bien, faire une petite page musicale et se retrouver dans la troisième partie de cette émission pour évoquer justement ce personnage de Céleste Albaret et faire un peu plus comprendre qui elle était et son rôle pour Proust. C'est la troisième partie de cette émission des estivales de 48FM consacrée aux célestivales. Ça fait beaucoup d'estivales dans la même phrase. Mais alors, on a autour de la table pour cette troisième partie consacrée à Proust et à Céleste Albaret. Voilà, et justement le lien entre Céleste Albaret et Proust. Alors, Thibaut Gobry, le réalisateur de La Part Céleste, donc bonjour.
Bonjour.
On verra votre travail demain à 16h45 à l'église. Et puis, deux personnes qui ont côtoyé Céleste Albaret ici à Auxiac.
Mais qui était Céleste Albaret?
Voilà, mais on y vient. Donc, Josette Tigrier et Guy Lévesque. Donc, voilà. Peut-être déjà nous, effectivement, qui se sent de répondre à la question de Nicolas, qui était Céleste Albaret?
Parce qu'on entend beaucoup parler, Céleste Albaret. Alors, qui était Céleste Albaret?
Céleste Anne Barré, c'était donc la gouvernante de Proust. Et elle était née, comme vous a dit Pierre, dans cette maison. Et en fait, moi, ce qui m'a amenée à apprécier, à connaître Céleste, c'est que j'entendais parler de Céleste dans le village de manière curieuse. Et je pense que ça m'a interrogée. Et je demandais à ma belle-mère, mais pouvez-vous m'introduire auprès de Céleste? Moi, j'aimerais rencontrer cette femme. Et elle, ma belle-mère répondait, comme toutes les personnes d'Auxillac à qui je posais la question, ce ne sont pas des gens de notre monde. Et moi, je disais, mais quel monde donc? Et j'ai eu envie de la connaître, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis venue frapper à sa porte, sachant qu'elle était en vacances. Elle m'a reçue très gentiment et je l'ai découverte. Voilà, c'est ainsi, de cette manière. Et j'ai découvert quelqu'un qui était à l'opposé de la personne qu'on avait présentée dans le village. Elle était, on disait, on chuchotait qu'elle était, qu'elle avait été la maîtresse de Proust, que voilà. Alors, sur ce point, moi, je n'ai pas eu du tout le même sentiment. J'ai le sentiment plutôt qu'elle a été la bonne fée, la personne qui a permis à Proust d'être en condition pour
écrire,
continuer son œuvre, puisqu'il était fragilisé par la maladie. Autrement, bien entendu, c'était lui qui écrivait. Mais à la fin de sa vie, elle a été totalement précieuse, puisque pendant 10 ans, elle va être au service de Proust et totalement maternelle. C'est le sentiment que j'ai ressenti en la connaissant près de 20 ans.
Donc là, vous nous parlez de quelle époque, s'il vous plaît, vous nous parlez de quelle époque?
Je vous parle des années, je l'ai connue dans les années 70, jusqu'à sa mort.
1970-1990.
Oui, jusqu'en 1984, puisque je suis allée même à ses obsèques. Nous nous voyons ici, nous nous voyons aussi à Paris. Et à Montfort-l'Amaury après, où elle demeurait, puisqu'elle elle a été plus tard se retirer chez sa fille à Montfort-l'Amaury. Et donc, je la voyais régulièrement. Donc, j'ai observé beaucoup, hein, beaucoup de régularité dans ses propos. C'était pas quelqu'un... ce qu'elle m'a dit le premier jour, elle le redisait à la fin de sa vie. Elle n'avait changé en rien. Ses termes étaient les mêmes, parce qu'on on aurait pu dire que l'âge avait pu modifier son comportement. Non, c'était la même personne de 70 que j'ai connue en 70. C'était la même... les années suivantes. Rien n'était modifié. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que, effectivement, j'ai eu le sentiment qu'elle était totalement imprégnée de Proust, enveloppée de Proust, et qu'elle a vécu pour lui, avec lui, et voilà, et en lui jusqu'à la fin. Mais ce qui est très beau, c'est que je considérerais que sa vie est une vie réussie. Et c'est amusant parce que l'an dernier, dans notre festival, nous l'avons associé à Monseigneur de Ligonnès. Ce qui... Si, nous avons fait une conférence où il a été parlé de Monseigneur de Ligonnès.
On va en savoir un peu plus là sur cette intervention.
Non, je vais choquer. Je vais choquer. Alors, pourquoi je vais choquer? Et j'aime bien cette façon de choquer un petit peu. Je l'ai fait sans vouloir le faire. Mais tout de même, dans un pays très catho, comme la Lozère, où la moralité devrait être, à mon avis, et on devrait tendre vers l'exemplaire. Eh bien, c'était pas très sympa d'oser affirmer que c'était la maîtresse de Proust. Alors je sais bien, on n'a pas tout vu, on n'a certainement pas tout entendu, mais tout de même, ça me paraissait énorme. Or, moi, je n'ai pas eu du tout cette impression et je n'ai aucun intérêt à dire cela. Je vous parle en toute simplicité et en toute sincérité. Et Il ne me semble pas que, c'est, que c'était le cas. D'autre part, quand on connaît l'état de santé de Proust et quand on fait un petit peu, on revient en arrière, on voit que la sexualité n'a pas été, n'a pas conduit sa vie. Elle a conduit son intellectuel, à son intellect, à connaître.
Enfin, on peut être aussi amoureux et être amant sans consommer. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Ah, ben ça oui, peut occuper oui, l'esprit oui, un moment. Hein.
Alors, et qui
il y a une relation très intense. Mais
voilà. Et qui vous dit voilà, que Proust est, ne sont pas arrivés à cette entente parfaite, platonique. Et voilà, c'est très possible. Mais ça...
Ce qu'il faut peut-être préciser, Pape, c'est que...
Thibaut Gobry, un réalisateur de La Part Céleste.
Là, vous parlez des années 70 mmh. et, 80, et début 80.
1970.
Et en, fait, 1970. En fait, le moment oui. où elle a travaillé avec Proust, où elle a connu Proust, c'est très longtemps avant. C'est elle a travaillé de 1913 à la mort de Proust, 1922. Ça veut dire que pendant ces 50 ou 60 ans, elle a gardé tout ça en elle, avec une... Comme vous
avec
disiez,
une
Josette,
précision,
avec une précision,
une précision, une invariabilité, quoi. C'est quand même étonnant, ça. Ou alors, elle a quelque chose de fort en elle, Céleste.
Parce qu'elle avait entre 20 et 30 ans, elle. Elle l'a connue entre
oui,
20 et 30
ans. Elle a 20 ans.
Après, il y a toute sa vie qui s'est encore passée.
Elle a 20 ans d'écart avec.
Parce que Proust est mort à quel âge ?
En 22, à 51 ans.
1922. Ouais.
Alors, peut-être, justement, votre regard qui est peut-être un petit peu différent,
regard.
Un autre regard, enfin voilà, et qu'est-ce que vous avez finalement voulu exprimer dans ce film qui sera présenté demain ?
Demain, oui. Donc, le film s'appelle La Part Céleste, et c'est un court-métrage de 30 minutes qui s'intéresse vraiment aux derniers jours de la vie de Proust. Et à ce moment-là, donc c'est une sorte de moment suspendu où lui ne bouge plus, il est dans sa chambre, enfin... Il ne bouge plus, mais il travaille encore. Il est encore. C'est un mourant bien vivant hein, qui écrit jusqu'à la dernière soirée. Et ça, c'est exact. Et donc, le personnage principal, on peut dire, c'est Céleste, puisque c'est elle qui gère les entrées et les sorties, qui a le droit de voir Proust ou pas, selon elle. Elle filtre les visiteurs. C'est elle qui fait le café. C'est elle qui s'occupe de tout à ce moment-là. Donc,
de toute
c'est
l'intendance, quoi. C'est
comment?
De toute l'intendance.
Oui, oui.
Et des soins et tout ça.
Et même mieux que ça, puisqu'elle est vrai qu'elle écrit sous la dictée de Proust aussi, puisque à certains moments il est trop fatigué pour écrire et même pour parler. Donc ça, elle est vraiment le lien avec l'extérieur de Proust.
Y compris avec l'éditeur, c'est ça qui est important, quoi. Et elle, effectivement, elle savait qui pouvait voir Proust ou pas. Elle savait rejeter les gens, les empêcher d'entrer. Elle était plus que ça, parce que d'ailleurs Proust disait « Ce sont vos jolies petites mains qui me fermeront les yeux ». Il savait que ça, il rendrait son dernier souffle auprès d'elle. Quoi. Ça a été une espèce de muse, de révélatrice, de miroir, de test.
Est-ce que ça, c'est un sentiment partagé, que ce soit sa muse, ouais. Pour vous trois, ouais.
Que ce
soit sa muse, c'est-à-dire que ce soit elle qui l'inspire dans ses écrits.
Parce qu'il est vrai qu'elle apparaît dans La Recherche du Temps Perdu à un moment donné, mais c'est quand même un moment un peu anecdotique, sur 2-3 pages, et il l'a fait entrer dans le roman. Et d'ailleurs, elle a son propre prénom, elle s'appelle Céleste, et Marie aussi, et Marie-Gineste aussi, les deux sœurs. Muse, non, par contre, elle a été une espèce de confidente, ça c'est sûr.
Qu'elle a écrit, elle, du coup, ça, sur cette histoire-là?
Oui, c'est donc elle a écrit dans les années 70, enfin ce livre d'entretien, 60, ouais.
Monsieur Proust,
qui est un livre d'entretien avec Georges Belmont, où effectivement, 50 ans après la mort de Proust, elle donne
elle
son...
Elle témoigne.
Et c'est vrai que moi, c'est ce qui a inspiré mon film, La Part Céleste, parce que le dernier chapitre de ce livre, je l'ai trouvé très, très poignant quand elle parle de la mort et des derniers jours, des dernières semaines. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que 50 ans après, elle a tout gardé, chaque chose. Elle pleure encore en le racontant. Enfin, c'est très poignant.
Oui, il faut savoir qu'elle a dû faire 2-3 ans de dépression à la mort de Proust et à qu'elle s'est enfermée, qu'elle n'en a pas parlé, quoi, jusqu'à ce que des Américains la redécouvrent. Enfin, jusqu'à ce que, confidentiellement, des gens savaient qu'elle existait, mais c'est les Américains qui sont des fanatiques de Proust qui l'ont remise en lumière, ont fait des émissions sur elle, qui sont allés la sortir de l'ombre. Puis bon, il y avait le photographe Man Ray, il y avait des gens comme ça qui ont eu un rôle aussi.
Elle était tombée totalement dans l'oubli. Après la mort de Proust, personne ne s'intéressait du tout, personne ne s'intéressait à Céleste. Les amis de Proust l'ont abandonnée, et voilà. C'est uniquement... Oui, pardon. c'est uniquement les Américains, toujours les étrangers, ils étaient très intéressés par Proust. Parce que déjà, Proust avait traduit, et la mère de Proust, qui parlait couramment l'anglais, avait aidé son fils à traduire Ruskin, qui était un écrivain, un critique d'art aussi. Et Proust a traduit son livre sur la Bible d'Amiens. Et donc, à l'étranger, Proust est très connu. Il est très connu, puisque dans les années 20, l'intelligentsia roumaine organise des conférences en 1920 sur Proust, qui parle en français. Enfin, ces conférences sont faites en français. Il faut le faire en 1920 en Roumanie. Donc, c'est pour vous montrer l'impact. Enfin, et donc, un jour, des étrangers apparaissent et redécouvrent Céleste. Et à partir de là, on s'est intéressé davantage à elle et il s'est constitué. Son livre est né de là, etc., etc. Mais à l'origine, ce n'est pas nous qui avons mis Céleste en lumière.
Je crois qu'elle disait qu'elle a écrit parce qu'il se disait beaucoup de choses fausses sur Proust. Oui. Il se disait beaucoup de bêtises sur Proust et ses amis, sur sa sexualité. Alors, elle n'abordait pas le mot comme ça. Elle l'abordait jamais, mais elle le protégeait, cette idée qu'il aurait pu avoir des relations avec des hommes ou même aller dans des hôtels. En tout cas, elle protégeait cette idée. Elle la faisait déraper. Elle éludait assez facilement ça. Mais bon, soi-disant qu'elle en a eu un suffisamment marre d'entendre des bêtises pour dire sa vérité. Je crois qu'elle a vécu, en tout cas quand elle a écrit son livre Monsieur Proust, elle a vécu comme une réhabilitation de Proust, comme une justice à lui rendre. Et on le sentait, enfin, c'était un peu ce qu'elle disait. Moi, je l'ai rencontrée l'année où je passais mon bac, donc j'étais allé en parler plusieurs fois avec elle. Et c'est vrai que c'était un moment assez où on sentait qu'elle... Ça l'a bouffé, quoi. Enfin, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais elle avait les larmes qui montaient quand elle parlait. Elle était très émotive. Les minutes heureuses l'illuminaient, mais les moments difficiles la faisaient pleurer.
Je crois que c'était ça qui... Il faut quand même admettre qu'elle ne voulait pas admettre l'homosexualité de Proust. Parce que quand je lui disais, mais Céleste, l'homosexualité, c'est connu... elle est connue
officielle maintenant.
De tous les temps. Je la voyais qui avait le visage peiné et tout, et j'arrêtais parce que je sentais bien que ça la contrariait et puis que c'était une époque où on
parlait pas trop de ça. Alors par contre, peut-être revenons
dernière
un petit
question,
peu sur la réalisation de votre film. Vous êtes pas originaire de d'Auxillac. Vous venez de quel endroit?
Oui, de Champagne.
De Champagne, et vous êtes réalisateur de votre métier?
Oui. C'est mon quatrième court-métrage, en fait, ce film-là.
D'accord, et pourquoi avoir fait un film sur,
oui,
sur la part céleste?
Bon, j'étais très intéressé par Proust. J'avais lu... Moi, il y a plusieurs disent qu'il est difficile d'entrer dans Proust. Moi, je trouve que c'est surtout difficile d'en sortir quand on l'a lu.
Ça n'empêche pas de dire que ce soit difficile d'y entrer. Hein.
Et finalement, je n'avais jamais pensé faire quelque chose pour le cinéma. Enfin, je veux dire, Proust au cinéma, c'est très compliqué et beaucoup en ment, mais c'est en lisant donc Monsieur Proust, le livre de Céleste Albaret, et particulièrement, comme je disais tout à l'heure, le dernier des chapitres de la mort, là où je me suis dit, mais là, c'est très très touchant, il y a quelque chose à faire il y a l'idée d'un film. J'ai l'idée d'un long métrage qui mettrait en scène Proust et Céleste, qui mettrait au cœur du film la relation Céleste et Proust. Et pour commencer, j'ai voulu faire ce court-métrage qui, là, se centre donc juste sur les derniers jours de Proust, ce moment.
D'accord, donc là, vous avez pris des acteurs, des actrices.
Oui, alors tout le problème est de trouver de la personne. Ouais. D'ailleurs, je suis un peu fébrile pour de le présenter ici, devant des gens qui ont connu Céleste.
Et qui sont passionnés aussi par son histoire.
Qui vont forcément voir une réinterprétation de Céleste par une actrice, par une mise en scène. Ça, voilà.
C'est un huis clos, c'est quoi? Le film est construit comment? C'est un huis clos?
C'est un huis clos dans le sens où on quitte pas, sauf à la fin du film, on quitte pas l'appartement. Mais par contre, il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui passe. Le frère, les médecins, voilà, il y a toute une circulation autour de cette chambre où personne n'a le droit d'entrer et qui est celle de Proust.
Gallimard. Gallimard qui passe aussi, ouais. C'est important.
Et donc ce film, on pourra le voir ce soir ?
Non, c'est donc c'est demain.
C'est demain soir.
Demain, jeudi 8 à 16h45 à l'église. Je vais faire en quelques mots le rappel du programme. Donc, comme cette émission se termine, 21h, le concert de jazz avec le trio Barolo ce mercredi, donc 7 août. Et puis demain, à partir de 11h, Les Ineffables de La Fontaine, un spectacle en famille à partir de 5 ans, à la salle des fêtes. À 14h45, s'il fait beau, l'itinéraire à travers le village. S'il ne fait pas beau, ce sera un itinéraire dans la salle des fêtes, avec un certain nombre de spectacles. À 16h45, donc le film dont vous venez de nous parler. Et à 21h, sur la place de l'église, le théâtre pour tous, avec Don Juan, la répétition, la pièce dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, je rappelle que toutes les propositions de jeudi sont ouvertes à tous, sont à entrée libre et gratuite. Voilà, et donc on remercie vraiment tous les gens qui nous ont accueillis aujourd'hui.
Un grand merci, oui, vraiment, c'était très intéressant. Une belle équipe, en tout cas, plein d'énergie, même si voilà, un appel à l'aide s'est fait.
Merci.
Voilà, on va... Eh bien, Céleste, c'était quelqu'un, je voulais dire, je terminerai sur ce mot, ces mots, c'était quelqu'un qui a réussi sa vie. Et je souhaite que nous tous, nous puissions dire que nous avons réussi notre vie, aussi bien qu'elle, puisqu'elle disait, ma vie a été un bonheur auprès de tous. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, tout lui a été facile, et pourtant... j'imagine que ça devait être sacrément facile parfois.
D'accord. Mais merci beaucoup pour ce mot de la fin.
Très belle conclusion. Et voilà, et on rend l'antenne avec un peu de retard pour les musicales de l'été sur 48FM. Mais c'est pas grave parce qu'on avait plein de choses à se dire aujourd'hui. Et voilà, c'était donc cette émission des estivales de 48FM voilà, sur les célestes.
Merci.
Voilà.
Et merci à 48FM.
Merci beaucoup.
Et aussi à tous les gens qui nous ont aidés dans la fin.
Conseil Général soutient les festivals de l'été et la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez toute la programmation, les détails pratiques, des reportages et des jeux sur culture.lozère.fr. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les estivales de l'été sur 48FM.